La pratique qu'on fait, comme vous le savez, s'appelle Vipassana, qui peut se traduire par voir profondément, compréhension profonde. En anglais, le mot qui est utilisé, c'est insight, insight meditation. Et souvent, en anglais, on parle du first insight, la première compréhension profonde, la première compréhension. Et c'est possible qu'on ait tous eu là, ce first insight, qui est quand on se rend compte qu'on a très peu de contrôle sur notre esprit. C'est le first insight. Alors on se dit, tiens, je vais m'asseoir là, je vais être avec la respiration, de façon bienveillante, l'esprit va se concentrer, puis après il va avoir une sorte d'extase, et ça va être suivi de l'éveil. Ça va être très bien pour ce matin. Excellent programme. Et là, on se met au boulot. Et là, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Hein? Et donc, c'est ça, c'est une série d'humiliations, pourrait dire. Et même chose dans la marche. Tout à coup, l'ennui, le doute, le désir d'être ailleurs. Et là, on se retrouve pris dans une histoire qui n'aurait pas eu lieu, mais tout de même, etc. Et donc, on appelle ça parfois, cette première compréhension profonde là, du manque de contrôle qu'il y a sur les choses, là, qu'on ne choisit pas exactement comment on va se sentir dans le corps ou dans le cœur. Ça ne fonctionne pas exactement comme ça. C'est d'ailleurs un des points qui semble faire dire au Bouddha qu'il n'y a pas de « je » inhérent, etc. Parce qu'il dit, ben, sinon on aurait le contrôle, on déciderait si c'était vraiment « je ». C'est nous qui déciderait ce qu'on pense ou ce qu'on ressent dans le cœur. Et ça, c'est une des façons de prouver que non, en fait. C'est pas tellement « je » qui est en contrôle, mais un paquet d'autres choses, des circonstances. Hein. Des choses qui sont arrivées, ont un impact sur comment je vais me sentir. Des choses qui sont arrivées ce matin, où il y a quelques décennies, les choses qui se passent dans le monde peuvent influencer ce qui va être vécu dans le corps ou dans le cœur, etc. C'est sans fin, là, toutes les conditions qui jouent avec ça. Et donc, ce qu'on apprend à faire tranquillement, c'est à rencontrer ces choses-là qui se présentent. Ah, si c'est le calme, ben, tant mieux. On va pouvoir se l'approprier. C'est moi, je suis calme, je l'ai, c'est à moi. Tenter de le garder. Ou d'en faire la promotion. Maintenant, je vais marcher calmement. Pour que tout le monde voit bien que je possède le calme. Et non, donc on a la chance ici aujourd'hui. Magnifique journée pour la pratique. Incroyable. On n'aurait pas pu rêver d'une meilleure température pour la pratique. Quelle que soit la température, c'est toujours une excellente température pour la pratique. Et donc, comment rencontrer toutes ces choses sans s'accrocher, comme on le fait avec les choses justement qu'on craint, qu'on n'a pas choisi, qu'on ne veut pas, ou les choses qui nous plaisent bien, qui semblent bienvenues, aidantes, comment ne pas s'accrocher? Alors, c'est un peu ça la recherche. Dans les différentes circonstances là, dans lesquelles on se retrouve pendant la journée. Et quand les émotions sont affligeantes, parfois envahissantes, bouleversantes, perturbantes, etc., là, il y a un art très particulier pour comment être avec, rencontrer. Bon, c'est une chose s'il y a une vague tout à coup très forte, puis que ça dure quelques minutes, mais si ça perdure, disons, là, s'il y a quelque chose qui nous accable, avec une certaine force déstabilisante sur une certaine durée, alors là, il y a quelque chose en anglais encore, je suis désolé, j'ai beaucoup pratiqué en anglais, qu'on appelle, donc en anglais, touch and go. Alors, donc, c'est un peu, c'est pas opposé, mais ça pourrait sembler opposé à ce dont j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant, qui est demeurer au contact. Et si on fait l'expérience de quelque chose d'accablant, on ne veut pas demeurer dans l'épicentre de... Imaginons là, que c'est beaucoup ressenti dans la poitrine, la contraction. Là, ça va devenir important parce que ça va être épuisant. C'est très difficile d'être avec quelque chose qui est déplaisant, douloureux, etc. Alors même s'il s'agit d'une douleur physique, ça s'applique aussi. Alors la suggestion ou l'exploration qu'on va faire, si c'est possible, c'est ça, touch and go. C'est-à-dire qu'on va venir toucher, très difficile d'être Pascal ce matin, douloureux. Donc on touche, touch and go. Et là on ouvre peut-être les yeux, on ouvre les oreilles, et on va toucher, j'en ai parlé un peu hier soir là, avec l'équanimité, alors on change d'objet d'attention. On reste pas juste là dans le ventre, dans le cœur, ou dans l'obsession, dans l'histoire racontée. Oui, c'est très douloureux, c'est pas réglé, c'est accablant. Et qu'est-ce qui se passe d'autre? Le silence, les sons, l'espace. Et moi, j'essaie toujours de me mettre comme ça avec une fenêtre derrière pour que vous puissiez ouvrir les yeux si vous en sentez le besoin ou c'est soutenant d'une façon ou d'une autre pour pouvoir regarder un petit bout de ciel, un petit bout de gazon, un petit écriteau en tibétain. Quelque chose. Et donc, go, on va porter l'attention, poser l'attention ailleurs, puis on peut revenir à un certain moment, après une minute ou quelques secondes, où c'est à nous de voir, puis on revient. Oui, ah oui, c'est difficile, pas facile de vivre ça, cette confusion, cette quoi que ce soit dont il s'agisse. Et donc on touche et on repart, comme ça. On peut aussi aller dans le corps, voir où est-ce qu'il n'y a pas cette charge. Donc, on veut quitter l'épicentre, là, ce vortex. Là, ça a une façon d'avaler l'attention, ça. Et ça peut aussi... Là, c'est très énergivore. Alors, encore une fois, il faut pouvoir se rappeler de ça ou il faut que ça ne soit pas si fort que ça avale toute l'attention. Mais il y a un moment, peut-être, où on peut se dire, tiens, quoi d'autre? Puis on peut aller voir dans les doigts, je ne sais pas, dans les cuisses, les côtes, le lobe des oreilles. Est-ce qu'il y a cette charge émotive à cet endroit-là? Peut-être que non. Alors, ça devient très judicieux, ça peut être très aidant de faire ce jeu du balancier un peu. On va vers douloureux. Puis ça peut être douloureux dans le genou. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, c'est pas du déni, mais c'est une ouverture un peu, un jeu pour... peut-être retrouver un peu d'équilibre. Alors, c'est une des façons là, d'être en lien avec une émotion qui peut être difficile si elle se présente. Si vous ne faites pas l'expérience d'émotions difficiles, s'il vous plaît, n'allez pas croire que ça va mal dans votre pratique. Pascal, j'ai un groupe absolument... j'ai aucune émotion affligeante. Ça va pas bien du tout. Non, c'est très OK. Il y a différentes phases, différentes choses qui se présentent dans la vie et dans la pratique, évidemment. Nous, on apprend à être avec ce qui se présente. Et parfois, ce qui se présente est très beau. Alors là, ben, il suffit aussi de l'exploration, c'est de voir si c'est possible de ne pas s'accrocher, juste de ressentir cette... je ne sais pas moi, légèreté, joie, ce calme, la panoplie est large, ça aussi. D'ailleurs, dans la psychologie bouddhiste, il y a beaucoup plus d'états mentaux bénéfiques qu'il y a d'états mentaux nuisibles. Ça fait changement. Peut-être une autre difficulté qu'on peut rencontrer dans la pratique, c'est quand c'est ni plaisant ni déplaisant. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que c'est aussi important quand quelque chose est neutre, parce que notre rapport à ce qui est neutre est aussi parfois pas très sage. Alors ça, c'est des enseignements du Bouddha, des enseignements de Dhammadina. À l'époque du Bouddha, il y avait une femme très, très respectée. Et le Bouddha disait parfois, si Dhammadina le dit, c'est que c'est juste. Et elle et lui, et ils enseignaient que chez les êtres humains, voyez si c'est vrai pour vous, quand quelque chose est désagréable, on se braque, on s'effondre, on juge, on pense que ça ne devrait pas avoir lieu, etc. On s'agite, on est dans la réactivité. Ça, c'est une tendance très naturelle chez l'être humain. Quand les choses sont plaisantes, on s'accroche. Peut-être pas toujours, mais parfois on peut le voir. Quelque chose... Est-ce que ça peut durer, cette assise, ce repas, je ne sais pas quoi, cette relation, cette situation? C'est très naturel. C'est naturel et un peu embêtant. Ça crée de la souffrance. Donc nous, on essaie de voir, est-ce qu'il peut y avoir un autre rapport où il y a moins de prise, moins de saisie? Et donc, ce qui va nous permettre de traverser ce qui est difficile sans en ajouter ce qu'on appelle souvent la deuxième flèche. Même chose avec le plaisir, pour pouvoir y avoir vraiment accès à la beauté, à ce qui est bon. Si on ne s'y accroche pas, on va pouvoir être nourri. Et quand c'est ni plaisant ni déplaisant, on pourrait se dire, ah ben voilà, plus de problèmes. Mais pour l'être humain, ben non. L'être humain, dans toute sa créativité, peut créer du trouble un peu partout où il va. Et donc, rencontrant le ni plaisant ni déplaisant, ce dont parlaient Dhammadina et le Bouddha, c'est que l'être humain, souvent, devient un peu confus, ne reconnaît pas, ne s'agite, il ne se passe rien, il ne se passe rien dans ma vie, il ne se passe rien sur le coussin, il ne se passe rien à la télé, etc. Et donc, on peut facilement s'agiter, ça peut venir mener vers le doute, vers le désir d'autre chose, vers l'aversion, j'aime pas ça, il ne se passe rien. Alors, toute la porte est grande ouverte vers les empêchements. Quand il y a une neutralité, alors il y a tout un art qu'on peut aussi... C'est une chance dans ce laboratoire ici d'explorer ceci aussi, le rapport à ce qui apparaît comme étant neutre. Et comment pouvoir être, cultiver le calme, l'appréciation, etc. Là, il y a toute une richesse. Et ça, c'est très beau. Là. Moi, j'enseigne depuis quelques années, puis j'ai la chance de voir ça de temps en temps. Souvent, c'est quelqu'un qui va avoir pratiqué depuis, je dirais, une dizaine d'années, qui tout à coup découvre ce champ de la neutralité. Puis parfois, ça vient avec des larmes. Là. Les gens disent, waouh, il y a tout un champ de ma vie auquel j'avais jamais donné de valeur, sur quoi je m'étais jamais arrêté, à quoi je m'étais jamais arrêté. Il y a tout un potentiel. Et donc, cette tonalité de plaisir, déplaisir, qui inclut la neutralité, puis comment être avec la beauté, le bon, le riche, le douloureux, le non-voulu, et le ni plaisant, ni déplaisant, ni plaisant, ni déplaisant. Peut-être pour clarifier, peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais juste au cas où, on pourrait facilement, dans la méprise, penser que spirituel égale plaisant. Hein? Il y a toute une sorte de marketing de la spiritualité où les gens flottent dans leur pachimina. Habituellement, ce sont des personnes blanches, minces, jeunes, femmes aux cheveux longs et... Oui, c'est ça, elle porte un pashmina. Elle porte un pashmina. et tout va bien. Et si elle lâche finalement l'assise et prenne une posture de yoga, ça va être impec. C'est sûr que ça va être parfait comme posture. Et donc, il y a toute une sorte de présentation de la spiritualité qui est comme ceci. Et pourtant, on voit ici, là, c'est pas le cas. C'est pas exactement comme ça. C'est pas que du plaisir. Hein? Et pourtant, ça a beaucoup de valeur, ce qu'on fait, là. Cette façon de découvrir comment rencontrer l'inconfort dans le corps, dans le cœur, dans les situations. Entre autres, dans les états intérieurs ou qualités, peut-être, on pourrait dire bénéfiques, c'est intéressant de découvrir qu'il y a des états intérieurs qui sont bénéfiques et agréables. Et il y en a qui sont bénéfiques et désagréables. Puis il y en a qui sont bénéfiques et neutres, ni agréables ni désagréables. Un exemple classique de ça, c'est par exemple, il y a une forme de conscience, quand tout à coup on devient conscient de peut-être l'impact d'un geste ou d'une parole qui était néfaste et qui est une sorte de « ouch » qu'on ressent, là, « aïe ». Quand tout à coup, on suivez-vous un peu, on sent l'impact. « Oh, j'ai dit ceci, c'était quelque chose de blessant, ça manquait de considération. » Puis là, on ressent le « aïe, aïe ». Ça, c'est pas agréable. Et pourtant, c'est bénéfique. C'est un peu différent de ce que je décris, on appelle ça souvent le remords spirituel. C'est un peu différent de la culpabilité. Ça, ce serait déplaisant et nuisible. Alors ça, c'est de faire un jeu d'une histoire. Je suis une mauvaise personne, j'ai fait ça, je suis horrible. De solidifier, de rendre permanent, de s'approprier un geste avec une sorte de saisie, d'agrippement. Alors ça, c'est autre chose. Ce dont je parle, c'est un petit peu plus délicat, mais c'est aussi désagréable. Mais c'est une reconnaissance, ce geste-là a créé du trouble, ou cette parole, ou ce silence n'était pas la chose à faire à ce moment-là. Sans se définir par ce geste-là, mais ce discernement, cette capacité de reconnaître, ah oui, pas la chose, pas la bonne chose à faire. Alors ça, c'est un exemple de quelque chose qui est désagréable. Ou par exemple, ici, une sorte de... Ici, dans la pratique, c'est une série un peu de mauvaises nouvelles, non? On s'assoit puis on découvre tout ce que l'esprit est capable de faire, comment il est retort. Alors, c'est pas agréable de découvrir ça. Mais c'est bien... C'est bénéfique de voir ce que l'esprit, comment l'esprit crée des nœuds, comment il s'enchaîne. Je me souviens une fois, c'est il y a très longtemps. Il y a très longtemps. J'étais en retraite, comme ça. Imaginons-nous la porte là, où on entre et sort. Peut-être qu'il y a un peu ça, mais sur les côtés de la porte, il y avait des petites fenêtres, comme ça. Un petit peu comme il y a là. Comment la porte ouvrait, je me souviens plus. Oui, la porte ouvrait vers moi, comme ça. Et j'allais sortir, très lentement, consciemment. Je mets la main sur la poignée. Puis je vois quelqu'un qui arrive vers la porte et qui vient... comme ça, là, peut-être c'était un employé du centre qui venait au boulot, tu sais, très comme ça. Puis juste au moment où la personne, je la voyais ici, là, elle me voyait pas, mais moi je la voyais. Juste au moment où la personne est venue pour mettre sa main sur la porte, j'ai fait comme ça. Juste pour qu'elle soit surprise. Puis après j'ai continué comme ça. Puis la personne, etc. Là elle se sentait mal, moi je me sentais très bien. C'est presque rien, hein? Je veux dire, si la porte avait ouvert de l'autre côté, j'aurais pu lui envoyer dans le nez, mais comme elle ouvrait de ce côté-là, c'était juste la surprise, juste que la personne soit un peu... surprise, étonnée, confuse pendant une seconde, ce qui se passait, il n'y a plus de poignée, comme ça. Puis juste après, à cause des moments de pleine conscience qu'il y avait eu à quelque part dans la matinée, tout à coup, j'ai réalisé, ah, wow, c'est un méchant plaisir. Hein, c'est plaisant, et pourtant, c'est pas, on ne pourrait pas dire que c'est spirituel. C'est plaisant, mais en fait, c'est de la cruauté. Hein, c'est vraiment juste... Et puis, c'est rien. On peut dire, bon, ça va. Ou peut-être, je vous laisse voir si je devrais être au bûcher. C'est pas moi, c'est moi, c'est l'autre de jadis. Mais donc il y avait juste ce petit jeu, puis ça me, tout à coup j'ai vu, ah oui, il y a de la cruauté existe dans ce système, dans cette psyché, il y a ce potentiel, c'est là. Et donc ça, c'était une mauvaise nouvelle. Il y en a plusieurs comme ça par jour. Mais celle-là, je me souviens bien, ça m'avait marqué, il y avait une dissonance cognitive. Hein. Je me disais, ben non, je suis une bonne personne. Puis là, je me disais, ah non, là, à ce moment-là, en tout cas, c'était pas joli. Tu sais, c'était cruel. Et donc, ça, on dit, ça, c'est pas agréable de rencontrer ça, mais c'est aidant. C'est aidant pour la suite des choses. Donc, ici, il y a de ça qui se passe. Un exemple de quelque chose qui est neutre, et qui est qui va être bénéfique, c'est l'équanimité. L'équanimité, c'est une sorte de neutralité. Mais quand je dis neutre, il faut faire attention. On pourrait penser indifférent, flat, plâtre, beige. Je sais pas comment le décrire là, mais alors que l'équanimité, c'est quelque chose de vibrant. C'est vibrant, on dit en intimité avec toute chose. C'est une définition moderne, contemporaine de l'équanimité. En intimité avec toute chose. Donc c'est quelque chose de vibrant, qui est éveillé, sensible, mais équilibré. Et donc, par exemple, on pourrait avoir une douleur au genou, dans le bas du corps, après plusieurs minutes d'assise, ce qui approche. Peut-être vous vous dites « oui, ça s'en vient ». On y est presque. Donc, c'est le contraire de la réactivité. Alors, je peux ajouter une deuxième flèche. Ça fait mal, ça va mal finir, je vais finir à l'hôpital. Je pourrai plus jamais m'asseoir au sol. Donc, il peut y avoir inquiétude, etc. Et ici, on développe cette équanimité. Toujours la porte d'entrée, presque pour toutes ces qualités-là, quelles qu'elles soient, qui sont bénéfiques, la porte d'entrée, c'est la pleine conscience. Alors, en s'intéressant au phénomène, que ce soit la douleur émotionnelle ou celle dans le corps, en disant, tiens, est-ce que ça peut être connu tel que c'est pour un moment? Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ceci en ce moment? On développe cette force intérieure de médiation. Hein, c'est ce qui fait la médiation entre les choses. Et donc, on s'imagine, par exemple, dans un conflit entre deux nations, deux groupes, qu'une médiatrice, un médiateur arrive, une personne qui fait la médiation arrive très calme, avec beaucoup d'écoute, de considération pour les deux parties. Et elle infuse, dans quelque chose qui est très chargé, elle infuse peut-être du calme, de l'espace, puis peut-être puis avoir tout à coup là, un peu plus de souplesse mentale, etc. Et donc nous, c'est ce qu'on développe ici, entre autres, cette sorte de neutralité, tellement que les gens, et ça c'est, on le voit dans les textes, mais on le voit aussi dans les rencontres de groupe, etc. Moi, c'est quelque chose que j'entends régulièrement, où les gens vont décrire quelque chose et ne trouveront pas les mots. Ils vont dire... Ah, et Pascal, il y avait cette sensation donc forte. Habituellement, j'aurais dit désagréable, mais là, je n'arrivais pas à dire. Ça m'apparaissait plus désagréable. C'était certainement pas agréable. Mais ce n'était pas désagréable non plus. C'est l'esprit plein de curiosité, d'équanimité, donc qui n'est pas dans la réactivité, se débarrasser, réagir, mais s'approche au cœur de quelque chose. Et là, la personne n'arrive plus à décrire. C'est pas désagréable, mais c'est pas agréable non plus. C'est ni agréable ni désagréable, neutre. Et la neutralité ne vient pas de la sensation, de la situation, elle vient de la qualité de l'esprit qui rencontre. Ah tiens, c'est comme ceci en ce moment. Quelque chose s'écroule, s'effondre, quelque chose qui m'était cher. Waouh! Waouh! Le Bouddha. Et je finis avec ça. Le Bouddha, à un certain moment, perd ses deux meilleurs amis qui meurent à 2 semaines d'intervalle. Et il y a un moment où quelqu'un demande « Comment vous portez-vous? Comment vous allez? Comment ça va? » Et le Bouddha dit « Je ressens un vide que je n'ai jamais connu. Je ressens une absence, un vide que je n'ai jamais connu. Et si je le mets dans mes mots, et je suis OK. » Voyez-vous? C'est pas comme si, ah oui, les choses sont impermanentes, etc. Indifférent, c'est pas ça. Il vient de perdre les gens avec qui ses meilleurs amis depuis 40 quelques années. Et il dit, c'est étrange. Je le mets dans mes mots encore une fois, mais ce que je ressens, c'est pas quelque chose que j'ai déjà connu. Et il y a cette équanimité. Et c'est ainsi en ce moment. C'est ce qui se passe. OK. Alors, on explore. Vous voyez, elle a trouvé la posture la moins inconfortable. Alors, il y a cette fraîcheur dans la pleine conscience. Cette candeur. Et là, c'est comme si on n'avait jamais pratiqué la méditation avant, comme si on n'avait jamais été assis, comme si on n'avait jamais respiré avant ou entendu des sons, comme si on n'avait jamais été consciente ou conscient. Tiens. C'est comme ceci d'être incarné, d'être sensible. Il n'y a aucune habitude avec la pleine conscience, il y a cette fraîcheur. Cette curiosité, tiens, être un être humain, c'est comme ceci, ça respire. Et l'expérience d'audition. Choses sont ressenties dans le corps, dans la poitrine. Est-ce que ça peut être connu avec lucidité? Est-ce que ça peut être connu tel que c'est? voyant. Demeurant en présence, voyons ce qui va se passer, qu'est-ce qui va apparaître, disparaître, demeurer, se transformer. Il y a un petit peu de temps pour des questions sur la pratique, des choses à clarifier ou des nuances à apporter.
Pour moi, l'équanimité, c'était justement de garder une distance par rapport aux choses. Et là, c'est d'être au contact le plus proche. Donc, je suis un peu...
Oui. Alors, je répète juste au cas où on n'est pas entendu derrière. Donc, pour toi, l'équanimité, c'était garder une distance avec les choses. Et là, avec ce que moi, je présente, il semble y avoir un petit paradoxe. Il y a plusieurs façons d'en parler. On peut en parler en termes d'espace, de recul, de perspective. Ça pourrait être une façon de... C'est-à-dire, tiens, une image qui est utilisée, par exemple, avec les quatre qualités du cœur dans le Visuddhimagga, un texte ancien, on dit la bienveillance, c'est comme un parent avec son enfant. Donc, cet amour inconditionnel. Et la compassion, c'est comme quand l'enfant est malade. Alors, il y a cet amour particulier devant la souffrance. Après, on dit la joie, c'est comme un enfant découvre le monde, hein, découvre, fait ses premiers pas ou sa première blague ou arrive à mettre le petit truc rond dans le trou rond, le truc losange dans le trou losange. Ah! Et donc cette joie et l'équanimité, on dit c'est un peu comme des personnes âgées qui sont au parc et qui regardent deux petits enfants se chicaner pour une poupée ou un jouet. Et donc ils ont ce recul-là, ils savent que bientôt... Ils vont passer à autre chose, que c'est pas très grave. T'sais. Les enfants, ils sont « Non, m'appelle, bon! » Et les personnes âgées sont « Oh, mignon! » Et donc ça, c'est une sorte de recul, on pourrait dire comme ça. Une autre façon d'en parler, c'est un esprit qui est fluide, souple, donc qui s'adapte, qui est pas « Ah non, ça c'est comme ça qu'on fait, on fait comme ça! » Non, c'est que « Ok, il se passe autre chose, voyons. » Alors on peut en parler en termes de souplesse. On peut aussi en parler en termes de proximité. Moi, c'est beaucoup plus mon expérience que mes enseignantes et enseignants m'ont appris, c'est qu'avec la pleine conscience, on entre au cœur des choses. On entre au cœur des choses, mais bien accompagné. On entre au cœur de la tristesse, au cœur du picotement, au cœur du pas, au cœur du souffle, au cœur d'un goût. Alors, on ne se recule pas avec la pleine conscience. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. C'est qu'on s'approche de très, très près, mais avec curiosité, avec bienveillance. Avec équanimité. Et donc, on va au cœur des choses. Et donc, c'est ce que je comprends de l'équanimité, c'est la capacité d'aller au cœur de quelque chose, de vraiment sentir les choses pour aller chercher toute l'information, en fait, pour être éveillé au cœur de la peur. Et donc, c'est une imagerie un peu différente. Ils ne sont pas nécessairement opposés. Mais après, ben, c'est ça. Là, on a la chance d'aller sur le terrain, voir, ah tiens, qu'est-ce que ça... La chose, l'erreur, à propos de l'équanimité, ce serait de... C'est le, ce qu'on appelle l'ennemi... toutes ces qualités ont un ennemi proche et un ennemi lointain. L'ennemi lointain, c'est qu'on voit de très loin que ce n'est pas l'équanimité. Et ça, c'est la réactivité. Donc, c'est l'impatience, c'est se braquer, c'est ça, etc. Donc, ça, ce n'est pas l'équanimité. On peut le voir de loin. C'est l'ennemi lointain, on dit. L'ennemi proche, c'est quelque chose qu'on pourrait méprendre l'un pour l'autre. Et l'indifférence, la dissociation, etc. Ça, faut pas, on pourrait se méprendre, hein, être déconnecté des choses. Après, ben, tout ça, c'est des idées. Puis là, nous, ce dont on parle, c'est de quelque chose qui est vécu. Alors, il faut aller voir sur le terrain les différentes manifestations de l'équanimité. Ouais. Autre chose?
Est-ce qu'on pourrait traduire l'équanimité par l'acceptation? Est-ce que, par exemple, si on dit moi, il y a un sentiment de peur, rationnel ou pas, enfin, justifié ou pas, et donc il y a un moment où on peut prendre conscience, oui, j'ai peur, mais j'ai peur, je dois fuir. Et si on parle d'équanimité, ce que j'entends, c'est que ah, on peut rester avec la peur, mais du coup, il n'y a plus de peur en fait. Ça, j'ai du mal à voir.
Oui.
Comment l'acceptation d'un phénomène désagréable permet de rester au contact du côté désagréable, puisque en même temps, il n'y aura plus de désagréable. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué.
Oui. Ben, c'est bien qu'on ait encore quelques heures, hein, pour clarifier les choses. Et ce que je pourrais dire, c'est que oui, c'est ça. Et puis, il va y avoir différents niveaux, degrés d'équanimité. Puis, ça va influencer beaucoup de choses. La disparition, le fait que la chose demeure, le fait que ça soit agréable ou plus agréable, ou, etc. Alors, prenons cet exemple où tout à coup, il y a de la peur. Il peut y avoir une sorte d'acceptation. Donc... De dire, ah tiens, il y a la peur, est-ce qu'elle peut être connue? J'imagine très bien qu'il pourrait y avoir une présence accrue à la peur, qu'elle demeure présente et qu'elle demeure désagréable, mais qu'il y ait une part d'équanimité, de pleine conscience, qui fasse que je puisse vivre ça. Je m'imagine vivre toute une matinée dans la peur, assis, avec cette sorte d'oppression à la fois physique et quelque chose comme ça, de soit paralysé un peu ou... Donc, la peur prend plusieurs formes. Et donc, j'imagine que ça pourrait demeurer là, quelque chose qui est bien installé là, pour un moment et qui pourrait avoir cette équanimité qui soit un mélange de, peut-être de patience, d'humilité, de courage. Puis donc, c'est ça, là, ce qu'on appelle l'équanimité, ça peut prendre différentes couleurs, ça peut, etc. Et quand tu parles d'acceptation, ben oui, je m'imagine qu'il y a une forme d'acceptation. On accepte profondément quelque chose et la réactivité passe. Par exemple, classique, dans une retraite de méditation, c'est possible qu'il y ait un moment où quelqu'un autour de nous énerve pour une raison ou pour une autre. Et parfois, ça peut être juste la respiration, c'est assez. C'est un peu comme à la maison, au travail, on a nos ennemis, nos amis, notre système. Puis on arrive à la retraite, puis on le recrée assez vite. J'en parle pas, mais elle, j'aime bien, lui, je me méfie. On recrée notre petit monde là, à l'échelle de la retraite. Et là, ben, tout à coup, à la maison, on déteste quelqu'un pour telle ou telle raison, il fait des choses horribles. Ici, on peut très bien détester quelqu'un pour sa respiration. Et donc, je peux être assis là, comme ça, puis... Mais, ces personnes-là, c'est vrai, je peux obséder. Et donc là, je suis dans la réactivité, il n'y a pas d'équanimité. Puis il y a un moment où je peux me rendre compte, mon Dieu, très forte réaction, très chargée, Pascal. Oh, mon amour, grosse réaction par rapport à la respiration de la personne à côté. Et bon, je peux toujours décider de changer de place, c'est une option, avant de, avant de commettre le pire, de donner une instruction à la personne sur comment respirer. Ça, jamais faire ça. C'est la beauté de la retraite. Hein? On est pris en silence avec notre réactivité. Parce que dans un autre cadre, on dirait, ah, tiens, je vais te suggérer. On irait réparer la personne pour que ça se passe comme je veux. Mais ici, on reste pris avec ça, on reste pris avec ça. Puis ce qu'on voit parfois, c'est qu'il y a un moment où tout à coup, on est épuisé d'avoir une opinion. Tu sais, de se battre avec l'autre personne qui continue à faire ce qu'elle fait de toute façon. Puis là, il y a quelque chose qui accepte profondément le manque de contrôle, entre autres. Hein? C'est peut-être que la personne fasse ce qu'elle fasse, mais surtout, bon, c'est peut-être pas penser dans ces termes-là, mais qu'il y a quelque chose qui fait comme, ah, on lâche prise. Hein? Et là, tout à coup, la personne continue à faire exactement ce qu'elle fait, mais là, il n'y a plus aucune réaction. Là, tout à coup, il y a une acceptation profonde de la situation, puis du fait que je pourrais pas la changer. Et là, tout à coup, et les gens vont décrire ça. Ah, là, tout à coup, ça, c'est drôle, c'est le même comportement, mais ça n'a aucun impact sur mon bien-être. Donc, ouais, il peut y avoir ça peut prendre la forme de l'acceptation. Peut-être je peux ajouter juste ça sur l'acceptation, parce que je pense qu'il n'y a pas encore eu, je crois qu'il n'y a pas encore eu une retraite sur quelques centaines là, à ce point-ci, où il n'y a pas eu une question qui me semble très importante sur l'acceptation derrière. Comme s'il y avait cette valeur bouddhiste d'accepter, accepter, accepter. Puis toujours la question éthique, c'est oui, mais est-ce qu'il y a un moment où on peut refuser ou qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'accepter les choses? Non, pas du tout. Et souvent, je pense qu'il y a une méprise, et c'est peut-être pas le bon mot, accepter. Avec la pleine conscience, on apprend à reconnaître ce qui se passe. Pour moi, ça me semble plus juste, que je reconnais. Donc, je vais pas accepter qu'il y ait de l'homophobie, du racisme, du sexisme, ou qu'il y ait de l'abus de pouvoir dans une relation ou dans une situation. Je vais pas accepter ça. Je veux pourtant pouvoir reconnaître que ça a lieu, dans le but de prendre la parole, de exiger un cessez-le-feu, etc. Et donc l'acceptation, c'est pas, il y a souvent une méprise quand on entend les enseignements sur la philosophie bouddhiste qu'on doit donc être équanime. C'est ça la question, là, ça serait ça. Équanime, ça veut dire que j'accepte tout, que je suis OK avec tout. Pas du tout. Équanime, c'est que je suis capable de reconnaître ce qui est là. Et de m'engager de façon créative, de voir qu'est-ce qui est possible ici, quel pouvoir, quelle habileté, est-ce que je dois attendre un peu pour voir comment ça va se régler de soi-même, ou est-ce que je prends la parole. Donc, l'équanimité, c'est reconnaître ce qui se passe, et dans le but de pouvoir passer à l'action. Ici, on est en retraite, on se retire un peu du monde pour développer une écoute, une intuition, une compréhension plus profonde des choses, dans le but de retourner dans le monde et de contribuer à nos relations, au monde, etc. Donc, équanimité, à ne pas méprendre avec acceptation totale de tout, tout le temps. Pas du tout, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Ça me paraît être un point important. OK.
J'ai juste une petite question, justement sur... j'ai un peu de mal avec la notion d'équanimité, j'arrive à comprendre, et la vacuité.
Voilà, petite question.
Tu peux répondre plus tard.
Oui, merci. Parce que je vois que c'est l'heure là, pour le petit groupe et pour la marche. Puis donc j'y reviendrai, j'ai entendu. C'est un petit détail à régler peut-être cet après-midi. Merci. Ouais, donc, matinée de pratique, peut-être que ça pourrait être judicieux de voir la matinée jusqu'au repas, de dire, tiens, je vais essayer d'en faire un bloc de pratique, là, où est-ce que il va y avoir ce dévouement, là, je vais me dédier à la pratique. Souvent, c'est plus facile, en fait, de faire ça que de tergiverser, bon, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, est-ce que je vais me coucher, est-ce que je prends un thé, est-ce que... Ça paraît parler du bonheur, mais en fait, c'est de l'agitation. C'est alors d'y aller très simplement, de dire, tiens, je vais essayer d'être en présence. ça peut passer par évidemment une tisane ou quelque chose comme ça, mais il y a une simplicité là-dedans, puis un engagement qui est possible, qui pourrait se révéler être la meilleure façon d'être en lien avec la pratique ce matin. Alors à vous de voir, et bonne marche.